Et les midis, deuxième partie, on reprend la route. Tout à l'heure, à partir de 13h, je recevrai le metteur en scène Emmanuel de Marcimota. Et tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Sorti en salle en décembre, le documentaire animalier de Vincent Munier, Le Chant des Forêts, ode à l'observation et au ralentissement, tourné dans les Vosges, est nommé deux fois au César dans les catégories meilleur documentaire et meilleur son. Et c'est peu dire que l'univers sonore de ce film et le personnage principal tend l'immersion auprès des cerfs, oiseaux rares, renards, et lynx, et même le battement d'ailes d'un animal légendaire, le grand tétra, est impressionnante. Marc Nemblard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes audio-naturaliste, vous avez chassé les sons, notamment hein, pour le documentaire Le Chant des Forêts. C'est un film largement plébiscité par les spectateurs puisqu'il a dépassé le million d'entrées en salle et vous êtes en lice pour un César. Alors dans ce film, comment est-ce que vous avez travaillé? Parce qu'on a la sensation que le son précède l'image.
Ah oui, alors ça a été un travail de longue haleine qui consistait à faire beaucoup d'enregistrements sur le terrain ces dernières années, enfin même pendant une dizaine d'années, hein, ça, pour constituer des archives sonores dans lesquelles on a puisé pour construire tout le son du film en fait. Hein, donc ça a pris beaucoup de temps parce que les sons, lorsqu'on filme les animaux avec une caméra, le son pris par la caméra est rarement exploitable parce que l'animal est trop loin ou parce qu'il y a des bruits de manipulation de la caméra. Et donc, il faut, à partir du son de la caméra, qui est un son témoin, il faut le reconstruire, la traduction sonore des comportements animaliers, et puis il faut reconstruire l'espace sonore, le hors-champ, etc. Donc, c'est, voilà. Et donc, pour y parvenir, il faut avoir beaucoup de matière sonore. Donc, ça a pris du temps.
C'est-à-dire qu'en fait, pour monter cette bande-son du film, vous avez puisé dans vos archives que vous captez comme ça depuis des dizaines d'années?
Absolument, c'est exactement ça. Et puis aussi dans les archives sonores du réalisateur Vincent Munier, parce que depuis pas mal d'années maintenant, ça remonte à La Panthère des Neiges et même un petit peu avant, il réalise également des enregistrements donc autour de chez lui, dans les Vosges, et puis aussi lors de ses voyages. Et par exemple, les ambiances sonores de Norvège, c'est lui qui les a captées, quoi. Donc on s'est complété de cette manière-là, et puis évidemment, il y a d'autres personnes aussi qui sont intervenues lors de la post-production sonore, hein, sur le montage. Donc il y avait vraiment toute une équipe derrière le montage sonore de ce film.
Alors je l'ai dit, vous êtes aussi scientifique, hein, vous êtes audio-naturaliste. Quelle est la différence finalement fondamentale entre une captation naturaliste que vous faites à des fins scientifiques et une composition sonore pour un film ?
Alors, je vais juste préciser un peu. En fait, moi, je suis pas scientifique. J'ai plutôt un parcours de artistique, on va dire, hein, parce que j'ai suivi les beaux-arts, donc je suis plasticien à l'origine. Et c'est d'ailleurs ce qui nous dit. Alors, il y a souvent une petite confusion entre le travail des audio-naturalistes et celui des bioacousticiens. Alors, les bioacousticiens, eux, sont des scientifiques qui vont enregistrer les animaux pour essayer de comprendre ce qu'ils se racontent par l'intermédiaire des sons. Nous, on a une démarche un petit peu différente, c'est-à-dire que on va capter des sons, principalement animaliers, mais pas uniquement d'ailleurs. Hein, ça peut être des sons produits par les plantes, ça peut être des sons produits par les éléments naturels comme l'eau, les orages, etc. Et on va constituer des archives sonores. Et donc notre démarche, elle est principalement artistique dans le sens où il faut que les enregistrements soient suffisamment beaux, si vous voulez, pour qu'ils puissent être utilisés dans des productions artistiques, comme des films, comme des réalisations avec des musiciens, pour sonoriser des expositions, etc. Donc on a une approche assez esthétique de la prise de son, ce qui nous différencie de nos collègues scientifiques.
Mais alors justement, quel choix esthétique vous avez fait pour ne pas folkloriser les paysages sonores?
Ah, alors ça c'est... C'est toute une démarche et toute une sensibilité. Donc il faut évidemment du temps pour trouver les bons endroits. Il faut du temps pour observer le comportement des animaux et puis trouver des positionnements stratégiques afin de capter des comportements, des ambiances qui sont voilà qui nous conviennent, qui correspondent à ce qu'on veut faire. Et ça prend du temps, ça se construit vraiment sur le long terme, quoi. C'est vrai que on ne fait pas ce genre d'enregistrement comme ça du jour au lendemain. C'est tout un cheminement. Et puis il y a une question de sensibilité, évidemment, hein. Chaque audio naturaliste, on va dire, travaille un petit peu différemment, et donc il y a sa sensibilité un peu personnelle, hein, qui se traduit dans le
Ah
travail.
oui, on peut parler de style en fait.
Oui, on peut parler de style, absolument. Et puis, il se trouve que ma sensibilité, je pense, est assez proche de celle de Vincent Munier. On se connaît depuis pas mal d'années. Bon, évidemment, je connais très bien son travail. Et on a un peu une sensibilité assez comparable. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est très, très sensible au son. Ça fait aussi partie, d'ailleurs, de son héritage, hein, puisque son papa, Michel, que l'on voit dans le film, a également pratiqué la prise de son quand il était jeune. Et puis Vincent a développé vraiment une grande sensibilité également au son. Ça, c'est aussi le résultat de toutes ces expériences d'affût. Et donc on se comprend bien, quoi, à ce sujet.
J'ai eu l'impression aussi en entendant le son de ce film que vous avez volontairement travaillé sur des seuils, j'entends par là sur les silences, sur des sons à peine perceptibles. Est-ce que c'est pour déplacer notre rapport peut-être trop anthropocentré au sonore?
Oui, effectivement, toutes les matières sont importantes, toutes les matières sonores sont importantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les événements très saillants, très proches, les présences comme ça très proches. Alors c'est très bien, on a besoin de ça, c'est important, mais c'est tout aussi important d'avoir des matières beaucoup plus fines, beaucoup plus diffuses, des présences lointaines, des frottements, tout ça est vraiment important. Donc c'est des stratégies différentes. On laisse du matériel tourner aussi, tout seul, parfois dans la forêt, pour pouvoir obtenir ces matières très fines, parce que ça, les ambiances sonores évoluent en permanence, en fait, hein. Ça change tout le temps, ça change tout le temps. Et donc, pour avoir une diversité d'ambiances, de fond d'air, comme on dit dans le jargon des preneurs de son, ça demande vraiment un travail sur un long terme. D'autant plus que il y a beaucoup de sons aussi qu'on cherche à évacuer dans les enregistrements. Parce que les humains sont quand même bien présents dans le paysage aujourd'hui, hein, y compris dans les Vosges, dans les vallées les plus reculées, dans les forêts les plus sauvages, entre guillemets. Enfin, eh bien, les bruits de moteur sont là. Il y a les tronçonneuses, il y a les grumiers qui passent, et puis il y a les avions surtout, hein, qui survolent le massif vosgien quasiment en permanence. Et donc, ça représente une difficulté supplémentaire. Et pour obtenir des belles matières épargnées par toutes ces nuisances sonores, eh bien, ça nécessite beaucoup de temps, quoi. Voilà, faut vraiment avoir du volume d'enregistrement pour pouvoir ensuite isoler ce qui nous convient.
Bien, merci beaucoup Marc Namblard. Je rappelle que le documentaire Le Chant des Forêts de Vincent Munier, dont vous avez assuré le son, est toujours en salle. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on connaît enfin la date d'ouverture du canal Centre Pompidou de Bruxelles.
Oui, le projet de ce musée d'art contemporain remonte à 2017, lorsqu'un accord fut signé entre le Centre Pompidou et la Fondation Canal. Après plusieurs reports de sa date d'ouverture, le lieu va être inauguré en novembre prochain et prendra place dans un ancien garage Citroën de 40 000 m² situé au nord de Bruxelles, avec au programme pas moins de 10 expositions. Parmi celles-ci, A Truly Immense Journey, une exposition longue durée qui présentera 350 œuvres d'art moderne et contemporain, issu en partie des collections de Beaubourg. Après Metz, Malaga, Shanghai, Bruxelles devient donc la quatrième ville à accueillir une antenne du musée parisien. D'ici quelques années, trois autres centres Pompidou verront le jour à l'international, en Corée, au Brésil et aux États-Unis.
Et pour finir, Marie, une recommandation.
Mais oui, la 7e Biennale de Flamenco a commencé à Chaillot, à Paris. On y retrouve les stars mondiales du flamenco, musiciens et danseurs, mais aussi une nouvelle génération qui s'empare de cet art pour le tordre et le déplacer. Vous pouvez par exemple découvrir ce soir la danseuse britannique Yinka Essie Graves, révélée au Festival d'Avignon, qui dévoile ce que la culture espagnole doit à l'Afrique noire. Et surtout, ne ratez pas ce week-end le grand danseur de flamenco contemporain Andrés Marín et la grande danseuse et chorégraphe Ana Morales, qui vont ensemble s'enfoncer dans les méandres de la Divine Comédie de Dante et nous livrer leur vision du paradis, rien que ça. La Biennale se poursuit jusqu'au 14 février et vous retrouverez bien sûr tout le programme sur la page du Point Culture.
Merci Marie et nous on vous retrouve demain.
À demain.
À demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.